France Inter.
Et bonjour les gens qui nous écoutaient en podcast. Aujourd'hui, au bistrot, pour l'apéro, je reçois un réalisateur qui est aussi un peu l'âme des guignols de l'info, de Groland. C'est Benoît Delépine. Bonjour Benoît Delépine.
Oh, quel bonheur.
Oh, je vous embrasse comme du bon pain. C'est un peu mon doudou.
Et en plus, dans un bar, mais quel bonheur.
Ah, c'est super.
Oh là 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 là.
Ah, c'est chouette d'avoir un invité enthousiaste dès le début.
Ah, on va avoir des bonnes discussions de bistrot,
ah,
quoi. Des
brèves
de comptoir.
Des bonnes tranches de rigolade aussi. Tu vas peut-être changer le monde, on sait pas.
Oula, oui, écoute, c'est complexe en ce moment, mais on va essayer.
Allez, on n'a pas peur de la complexité, venez.
Oui.
Charlie Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Benoît Delépine, votre curriculum vite fait,
mon
comme ça, ce serait
vite
quoi
fait, alors, non, mais c'est vrai, je suis donc né en Picardie, c'est important pour le film.
Ouais.
Né à Saint-Quentin, d'ailleurs.
Ouais. Et aujourd'hui, vous habitez près d'Angoulême depuis 30 ans.
Ouais. C'est un peu comme la Picardie, mais un peu plus chaud quand même. Enfin, la Picardie, c'est bien, mais le climat, il est un peu rude, quoique ça va s'arranger avec ce magnifique changement climatique qui nous attend. Il faut tout optimiser, bien sûr.
Quand on va boire un petit Syrah ou un petit Chardonnay
Mais tu sais qu'il y en a maintenant.
Ah oui, il y en a déjà.
Même à Saint-Quentin, j'ai vu des vignes à côté de... Non, mais c'est hallucinant.
Et plus tard, des bananiers et des citronniers.
Oula,
mais ce serait plus tard.
Plus tard.
Mais c'est comment chez vous, alors, Benoît Delépine, près d'Angoulême? Vous habitez dans la campagne?
Alors, j'habite en pleine campagne depuis une trentaine d'années. Et effectivement, j'ai racheté une ancienne ferme qu'on a retapée petit à petit. Je m'attendais à être un peu perdu ensuite, une fois les trois enfants partis.
Ouais.
Mais figurez-vous que les enfants reviennent.
C'est pas vrai.
Si. Et non, mais c'est super parce que y en a un qui fait de la permaculture, mais qui va bientôt avoir une pépinière. Voilà, une pépinière, justement. Tu ne savais pas si bien dire avec les bananiers, puisqu'il est en train de travailler sur des nouvelles variétés d'arbres qui tiennent à la chaleur.
Ah,
voilà,
wow,
qui tiennent au réchauffement, on va dire.
Eh ben, bon, ça, c'est un début de curriculum vite fait, mais on va pouvoir le retracer pendant toute cette émission, Benoît Delépine. De nature, de campagne, il en est beaucoup question, évidemment. C'est le cœur de votre film, Animal Totem. Il était une fois... un type en costard avec une valise à roulettes qui atterrit à Beauvais et qui entreprend de rejoindre probablement Paris à pied, à travers champs, où il va faire des rencontres tout au long du chemin, rencontres animales et humaines. C'est un conte écolo, c'est vraiment un road movie en valise à roulettes avec des brins de paille qui se coincent dans les roulettes, quoi. Voilà. Les rencontres que votre personnage fait en chemin, il est interprété par Samir Ghesmi. Elle raconte quoi du monde aujourd'hui, ces rencontres? Parce que vous avez toujours un côté visionnaire. Vous avez toujours vraiment trois coups d'avance, et ça a toujours été le cas avec les guignols, Groland, on va en parler.
Mm-hmm.
Et là, qu'est-ce que vous avez senti pour démarrer ce film, alors?
Et mais en fait, j'ai senti, malheureusement, que les valeurs écologiques étaient en train d'être malmenées. Alors, ça devient quasi, aujourd'hui, une insulte de dire écolo, quoi. Enfin, c'est pire que ça, c'est même criminalisé maintenant.
Mm-hmm.
Si écolo, on peut se retrouver en taule en deux secondes maintenant. Enfin, si on a eu le malheur d'être contre quelque chose, par exemple une autoroute qui ne mène nulle part et qui fait gagner 10 minutes à des cadres d'un groupe pharmaceutique, tout ça, on détruit des milliers d'hectares. Bah, si on a le malheur d'être contre, on peut se retrouver en tôle. Ça devient un peu compliqué quand même.
Ou alors on se prend un LBD.
Oui, voilà.
Ou on se fait traiter de pulapis.
Et tout le monde trouve ça normal. Donc ça, par exemple, c'est un des petits changements qu'il y a eu dernièrement et dont je voulais parler au passage. Et puis non, mais mon héros se balade en Picardie dans la province, dans les villages et la banlieue aussi d'ailleurs.
Ouais.
Mais on y voit par exemple, il croise un policier municipal, mais ça montre aussi qu'il y a de plus en plus de... on n'est pas encore dans un état policier non plus, mais disons qu'au moins le moindre petit souci dans un village, tout de suite on prend un policier municipal, mais qui n'a absolument rien à faire puisqu'il ne se passe rien. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se forme. Donc il a le droit de port d'armes, il finit par avoir fait des stages d'armement un peu partout, donc c'est lui qui devient le danger public. Quoi.
Le shérif.
Le shérif du village.
Ouais.
Mais ça mériterait un film en soi, quoi.
Ouais.
Et donc les personnages en question qui sont croisés, effectivement, pourraient...
C'est des aspects de la société aujourd'hui.
C'est des aspects de la société, ouais. Sociologiquement en tout cas, ça fait partie des aspects de notre société.
Vous disiez, le film est tourné en Picardie, la région où vous avez grandi, donc en fait c'est un petit peu votre terrain de jeu de l'enfance dans lequel vous retournez, avec un père agriculteur. Vous donniez un coup de main, vous, carrément, pendant les récoltes ?
Alors, oui, mon papa qui est décédé dernièrement, j'ai une grande pensée pour lui. Et justement, c'est aussi pour ça que je tenais absolument à avoir ces paysages de moisson au début du film. Parce que vraiment, pour moi, les plus beaux souvenirs, c'est ça. C'est quand j'étais petit garçon avec mon frère, ma sœur, on allait amener le goûter à mon père sur sa moissonneuse batteuse avec ses senteurs de paille coupée, etc. Mais c'est trop beau avec la chaleur un peu... Ouais. D'ailleurs, c'est fou parce qu'à l'époque, les moissons étaient au mois d'août. Maintenant, elles sont au début juillet. Donc ça montre vraiment qu'il y a eu un changement pour le coup. Mais tout ça, je voulais le montrer dans le film.
Votre enfance, c'était un peu la petite maison dans la prairie.
Ce qui était vraiment rigolo dans mon enfance, c'est que même dans le village, on a fait partie des derniers à voir la télé, quoi. Du coup, on allait voir la télé chez les autres, et du coup, avec mes frères et sœurs et copains, copines, on essayait de refaire les programmes de télé, mais dans la cour ou dans la jungle ou dans le.
Ça deviendra Groland.
Mais non, mais je te jure, c'est vrai, c'est très important ça, le fait.
Vous imitiez qui comme émission?
Un western, par exemple.
Ah ouais.
J'ai même une fois ma mère m'a carrément dépendu entre guillemets parce que j'avais vu une scène de pendaison dans un western et je m'étais mis sous un arbre avec une ficelle sur une chaise avec tout le monde, mais qu'est-ce qu'il y prend? Moi je faisais comme dans le western, quoi. Donc maintenant je suis pas allé jusqu'au bout, mais c'est pour dire qu'on allait loin, mais on essayait de refaire un peu ce qu'on voyait chez les autres.
D'accord.
Et du coup ça, on va dire que pour l'imaginaire c'était plutôt intéressant. En tout cas,
les chants de Picardie, rendons hommage à votre papa. Moi, ma grand-mère, elle disait toujours puisque le malheur nous accable, avalons la douleur, et elle buvait un petit coup.
Ah, alors, bien.
Moi, je propose
ça.
qu'on boive en sa mémoire. Voilà.
Ah, très
allez.
Bien. Bon. Peut-être un peu trop avalé de douleur, mais bon, sinon.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie.
Eh oui, en liquide. Ce sont des chants qui aujourd'hui sont en majorité empoisonnés, on peut dire. Le personnage de votre film, incarné donc, je disais, par Samir Ghesmi, il ramasse un bidon de produits chimiques au milieu d'un champ de betteraves. Vous, en Charente, près d'Angoulême, vous habitez là-bas depuis longtemps, vous êtes connecté à tout ça, vous avez vu arriver ça et vous luttez contre.
Oui, alors... Mon père, quand on était petit, quand il y avait la période des traitements, c'était Homer Simpson. Il arrivait, mais jaune, des pieds à la tête, quoi. Il mangeait vite fait à la maison et il repartait, quoi.
Oui.
Et lui, il n'est pas mort de ça. Mais par contre, moi, tous mes oncles, tantes, enfin, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui sont morts de cancer, on va dire, inexpliqué. Mais moi, je suis persuadé que ça, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi les polluants éternels dont je parle dans le film. Mais que tout ça, ça donne... Enfin, c'est pas bon. Enfin, normalement, quand on habite, en tout cas comme moi, à la campagne, alors que c'est relativement luxuriant, puisque je suis près du fleuve Charente, donc il y a beaucoup de verdure, tout ce qu'on veut, mais par contre, il y a presque plus d'oiseaux. C'est dingue, quoi. C'est-à-dire, on est là, dans une campagne, où on n'entend plus le chant des oiseaux, ou très peu.
Il y a des drones à la place.
Oui, il y a des drones à la place, merci. Non, mais tout ça à cause, effectivement, des insecticides, des pesticides, etc. Donc, il y a un moment, il faut savoir peut-être réguler un peu tout ça, baisser d'un ton, on va dire, en tout cas. Mmh.
Réguler, les chasseurs le font aussi.
ils régulent les sangliers, mais les sangliers qui se nourrissent de ce qu'a laissé l'agriculture intensive sur place.
Ouais. Dans ce film, qui est très poétique, très beau, en fait... Vous vous vengez symboliquement, quoi, de tout ça.
Eh bien, voilà, c'est le cinéma, ça sert un petit peu à ça, quand même.
On
n'a plus que ça, là.
Mais évidemment. Hein, et là-bas, vous êtes impliqué dans un projet... voilà, comme vous faisiez allusion à la lutte contre la 69 ou les bassines Sainte-Soline, etc. Vous vous impliquez là-dedans, dans votre région?
Effectivement, mais c'est aussi ça qui m'a poussé à me lancer tout seul, d'ailleurs. C'est qu'il y a une usine qui, normalement, aurait dû se monter pas trop loin de chez moi, une dizaine de kilomètres de chez moi, et dont les effluves polluantes auraient vraiment foutu en l'air tout le bassin de la zone Natura 2000 proche, quoi. On s'est mobilisé avec un collectif. Moi, j'étais persuadé que ça marcherait pas, que nos manifs et nos réunions d'information, c'était un peu en pure perte, puisque c'était le cas pour d'autres combats en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai pensé me venger symboliquement avec ce film. Mais il se trouve que le bon sens l'a emporté, puisque finalement l'usine ne s'est pas faite. Mais je crois que le patron de l'usine en question, quand il va voir le film, il va se dire « Oh putain, j'ai échappé belge
oui, !» On déflore pas la fin, mais il se passe un truc. Il se passe tellement un truc que le CNC vous a pas donné des sous.
Oui.
À cause de ça.
Non. Pas de sous.
on peut y faire allusion. Il y a quand même un personnage de grand industriel qui est le patron de Totem Energy.
Oui, mais qui est joué par Olivier Rabourdin, mais qui est extraordinaire.
Ah, il est formidable. Décrivez-le, ce patron, ce personnage de patron.
Il est terrible, parce qu'il n'y a rien qui lui résiste à longueur de journée. Personne ne lui dit non, jamais. Donc, il a une façon d'être, une façon de parler. C'est le super prédateur, quoi. Donc, il traite les gens en super prédateur.
C'est comme ça que vous voyez les patrons, Benoît Delépine?
Non, pas tous, bien sûr. bien sûr que non, pas tous. Mais donc, en tout cas, il y en a. Mais moi, c'est une forme de caricature. Donc, je suis allé un peu loin, certes. Il a un peu tous les défauts, certes. Mais bon, sinon, on ne s'amuse plus, alors si on ne peut plus plaisanter.
Moi, j'ai vu, il y a une ressemblance physique et d'attitude. Je me suis dit, il a zigouillé Bolloré à la fin. Mais on y viendra à la fin, ça.
Qu'est-ce que vous n'avez pas cherché, vous, alors?
Vous êtes
quel
souvent...
Quel mauvais esprit.
Bah oui, on me le dit souvent. Mais je pense que j'en ai un plus mauvais en face de moi. On peut faire un concours. Vous êtes souvent fait virer, Benoît Delépine?
Oui, mais ça peut arriver. Par exemple, quand je faisais mon magazine, ça s'appelait Création.
Ah oui.
Et j'étais rédacteur en chef d'un magazine pendant 2 ans.
De pub et de design.
Et voilà. Mais alors, et à chaque fois, je critiquais les campagnes de pub. Alors, je faisais celles qui flashent pour les belles et celles qui flanchent pour les mauvaises, quoi. Et vraiment, je m'étais acharné sur un type que je détestais à l'époque, qui s'appelait Daniel Robert, qui avait un ego monstrueux, qui tous les ans nous obligeait à regarder des affiches à son effigie, etc. Donc, fait partie des gens que je détestais, mais je m'étais un peu acharné sur lui. Sauf qu'il faisait partie du groupe Havas, et qu'un jour, le groupe Havas a appelé mon patron en disant « On arrête toutes nos pubs si vous sortez ce papier ». Donc, ils ont enlevé carrément, un à un, le cahier où il y avait ma critique, de tous les journaux, un à un, et je me suis fait virer après, ouais, effectivement. Mais dans mon lycée aussi, hein, je m'étais fait virer aussi, enfin, passé en conseil de discipline, machin. Je faisais un journal qui s'appelait Polite, c'était une caricature de pilote, c'était le journal d'Achille Talon, mais j'avais fait tout un truc contre le sport, je détestais le sport à l'époque, donc je m'étais vengé symboliquement. Ça c'était mal fini.
Dans votre film Animal Totem, qui est sorti sur nos écrans, beaucoup de personnages de votre film sont des animaux. Il y a des oiseaux, un renard, un cervidé énorme, etc. Et donc vous avez aussi, dans ce film, filmé du point de vue de l'animal.
Voilà.
C'est-à-dire que la caméra, parfois, des fois vous filmez au ras des pâquerettes, Benoît Delépine.
Oh, exactement. Ah oui, au ras des pâquerettes. Il y a pas mal de plans au ras des pâquerettes,
ouais,
bien
vrai.
Sûr.
Alors ça donne un point de vue, c'est de toute façon, vous renversez les choses tout le temps, vous, avec l'humour. Donc là, ce point de vue, vous avez utilisé un format de cinéma, une manière de filmer. Mm-hmm. Techniquement, comment vous pourriez raconter ça?
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais, étant amoureux de ma Picardie natale, malgré les produits chimiques qui infestent les champs, mais j'adore quand même ces grandes plaines, ce qui ont marqué ma jeunesse, je voulais magnifier ça avec le cinémascope. Mais en allant voir les essais de Hugues Poulain, mon chef opérateur, j'étais un peu déçu, bizarrement, je trouvais ça pas assez ample, donc j'ai demandé au technicien, je lui ai dit, mais vous avez que ça en rayon? Et il m'a dit, non, il y a aussi la zone de sécurité à droite et à gauche de l'image, mais on la montre jamais parce que les télés n'en veulent pas. Je dis, ça tombe bien, ils veulent pas de mon film non plus, dis donc.
donc
il me montre ces deux zones-là, et là je tombe raide amoureux du format, qui est plus que du cinémascope, Et j'arrive à convaincre mes producteurs, heureusement, franchement, Christophe Barral et Toufik Ayadi, ils auraient pu dire, attends, c'est pas possible, Benoît. Justement, on va pas pouvoir le vendre à des chaînes de télé, mais ils ont dit, on est amoureux aussi. Donc on a réussi à faire ce film-là.
Et c'est vraiment vrai que c'est en panoramique.
Pour le cinéma.
Voilà.
Et il y a aussi Canal Plus qui a accepté de jouer le jeu, mais un peu après coup, on les a prévenus il y a une semaine. Non mais c'est vrai.
Vu qu'ils dirigent Canal Plus, c'est comme
mais
ça
non,
qu'il faut
mais
faire.
Non mais c'est pas hein. ça. Mais, non mais on avait peur. Hein. On était là, on attendait après la projection équipe. Il y avait Laurent Hassine du département cinéma de Canal Plus. On se disait s'il sort en nous faisant les gros yeux, on est très mal parce que s'il faut couper à droite et à gauche de l'image pour rentrer dans la télé. Comme je m'étais débrouillé pour que les scènes se passent justement là-bas à droite et à gauche, donc. On aurait
mais alors,
vu...
il sera diffusé un jour sur Canal Plus ou pas ?
Bah oui, bien sûr. Ah ouais.
Mais alors, comment vous allez faire ?
Mais non, mais c'est aux gens d'acheter des plus grandes télés. Hein. On a marre de faire des concessions tout le temps.
Acheter des écrans plats.
Bah oui.
Et faites-le avec la location de rentrée scolaire. Mais oui.
Mais bien sûr.
Ou enfin. Avec... faites-le avec vos allocs.
De toute façon, vous ne savez pas quoi faire de vos enfants. Collez-les devant ça, c'est beaucoup moins cher.
Mais donc, c'est un peu comme si vous rouliez sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est la marge de sécurité.
Ben, voilà.
C'est panoramique. Donc, c'est vrai que c'est une expérience cinématographique. On est enveloppé.
Ça n'a jamais été fait dans l'histoire du cinéma. J'ai appelé le procédé.
Ah, mais dans l'histoire du cinéma ?
Oui, il n'y a jamais eu un film fait comme ça. J'ai appelé le procédé l'animascope.
Wow.
Parce qu'il permet d'avoir le regard des animaux. Ce que je voulais absolument, c'est qu'on ne se contente pas de traiter les animaux comme des choses qu'on montre et qu'on étiquette, mais qu'on soit aussi dans leur peau, qu'on puisse voir, eux, comment ils voient leur super prédateur, qui est l'homme.
Bien sûr. Ouais. Et quand on pourra voir le film en VOD aujourd'hui, sur les plateformes ? Donc il y a des gens qui vont le regarder sur leur ordinateur ou un rétroprojecteur, malheureusement.
Putain, ils se débrouillent. Hein. Moi, j'ai pas... pas mon souci, moi je suis un artiste. Hein.
Bah oui. Bah vous avez raison. Donc il faut aller voir.
Voir au cinéma,
ah,
voilà.
C'est...
Non mais c'est vrai.
Historiquement,
quoi.
Le premier film en panoramique.
Exactement.
Et elle servait à quoi ces marges de sécurité là ? C'est comme ça me fait penser à l'école où il fallait faire une marge avant de faire son interro.
Je sais pas.
De...
Moi j'ai découvert en même temps que vous.
Personne n'avait jamais pensé à utiliser ces trucs-là.
Non, personne n'avait jamais utilisé.
Personne n'a écrit
ça.
Dans la marge, en fait.
Non, personne n'avait écrit dans la marge de l'écran de cinéma. Jusqu'alors, ça servait à rien.
Oh là là, c'est tout vous, ça. Quand je vous reconnais bien, là, d'écrire dans la marge.
Exactement.
Bah oui.
Écrire dans la marge avec les marges, exactement.
C'est vrai. Et pourtant, vous avez eu votre bac à 16 ans.
Oui. Non, mais c'est parce que ça, c'est
comment
un peu de la triche. C'est parce que... Non, c'est pas de la triche. Mais c'est parce que comme je suis né un 30 août, j'avais un an d'avance dès le départ. Quoi. Donc, c'est pas parce que j'étais extrêmement fort. Enfin, si, je passais, mais je passais de... avec la moyenne à chaque fois, facilement. Mais, non, mais alors là, ça, c'est génial. Parce que j'ai eu 10,1 au bac.
Ouais.
Et alors, mon fils, j'arrêtais pas de lui dire que j'avais eu mon bac à 16 ans avec 10,1. Et quand lui, il a eu son bac avec 10,01. Donc, il était hyper fier parce qu'il m'avait battu, quoi.
Ah oui, donc ça vous fait gagner un coup d'avance. Je comprends comment vous êtes si visionnaire. Vous voyez tout avant tout le monde. C'est incroyable. C'est vrai, hein ? D'ailleurs, je me demande d'où ça vient aussi, comment vous nourrissez ça, parce que j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir partager votre table à un dîner un jour. C'était il y a des années, et vous aviez vu que tous les chauffeurs Uber... travaillaient, vous m'avez expliqué, à leur propre perte, parce qu'ils ne savaient pas qu'en conduisant, ils accumulaient des données qu'ils allaient finalement fournir pour que les voitures soient autonomes et qu'ils perdent leur job. Et je me suis dit, mais comment vous aviez vu ça plus tôt que tout le monde, vous ?
Ben, je ne sais pas, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Il y a l'acteur qui est génial, qui joue le policier municipal, Harpo Gitt, qui est un Belge. C'est vraiment deux frères qui sont vraiment le renouveau de la comédie en Belgique. Ils ont fait Fils de Plouc, et là, ils ont fait Aimer Perdre. Enfin, ils sont vraiment très, très drôles. Et lui, il joue magnifiquement, il est trop bon. Puis il faut le faire, hein. Faut tenir 3 minutes en plan séquence avec un dialogue de fou avec Samir Ghesmi. Et donc lui, je l'ai vu tourner dans un film qui s'appelle En attendant les robots. Mais je l'ai vu juste avant de le prendre pour le film, tellement je trouvais qu'il jouait bien. Et il jouait le rôle d'un personnage de Jean qui existe et qui regarde toute la journée les visions de Google View. Et quand on voit un visage, tu l'effaces. Et tu es payé au nombre de visages que tu effaces dans ta journée. Et tu n'es pas payé en argent, mais en produits Amazon. Mais c'est complètement dingue, quoi. Et ça existe. Il y a des millions de gens qui sont en train de travailler pour nous. On dit « Oh, bah, l'intelligence artificielle, c'est cool, ça répond vachement vite et tout », mais on ne se rend pas compte des millions de gens qui sont surexploités pour arriver à... En plus, ce personnage, c'est pour réussir à former un robot. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont bien effacé tous les visages, le robot va finir par savoir le faire et le faire à sa place. Et même ces produits Amazon, il ne pourra plus les avoir non plus, quoi. C'est un peu dingue.
C'est fou. Et après, j'ai compris toutes vos réflexions et tout en voyant Effacer l'historique, le film avec Gustave Kervern.
On a parlé de tout ça.
Bah ouais, évidemment.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Nous sommes au bistrot avec Benoît Delépine, le réalisateur dont le film Animal Totem est sur vos grands écrans panoramiques au cinéma en ce moment. Et puis ce soir, vous pourrez voir sur Canal+, en clair, un Groland spécial de Noël en fait.
Voilà. Et des derniers alors, c'est pas du tout du Jean-Pierre Foucault, hein, du tout.
Non, moi j'ai vu un des derniers sketchs de Groland, j'ai adoré, c'est le sac... Cubi Louis Vuitton. C'est le sac à main avec un cubi dedans, avec des damiers comme ça pour l'alcool mondain.
Alcoolique, avoir la classe.
Mais bien sûr. C'est tout nous ça. Benoît Delépine, au générique de votre film Animal Totem, vos remerciements vont notamment à Confucius, Ovidie et Xavier Bertrand. Je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus.
Quoi?
Confucius, quand on voit le film...
Mais Confucius, ouais. Parce qu'il y a deux des paroles qui sont vraiment de Confucius. Ça, je te dis quand même. Comme ça date d'il y a 2500 ans, ouais. Je suppose qu'il ne va pas me demander des droits d'auteur. Mais bon...
Vous pourrez les trouver en voyant le film.
Ovidie, c'est une amie. Et en fait, c'est toujours ma première lectrice de scénario. Donc elle lit mon scénar, puis elle me fait des remarques et tout. Et c'est...
C'est pour ça que vous êtes totalement déconstruit, vous.
Un petit peu, oui.
Ouais. Xavier Bertrand,
c'est parce que c'était... il est de Saint-Quentin. Mm-hmm. Il m'a décerné la médaille de la ville de Saint-Quentin.
Et, acheté, quoi.
À l'époque, c'était chouette, quand même. C'était il y a une... Et puis là, il y a la région des Hauts-de-France qui a été la première à accepter le film. Et je pense que s'ils n'avaient pas dit oui, le film ne se serait jamais fait. Donc je voulais lui faire un petit merci. Arrêté le Front National. Moi, je ne dis pas le Rassemblement National. Mmh. Il a arrêté le Front National dans les Hauts-de-France. Ah, bravo, quand même.
Mais j'allais vous en parler. C'est un des rares politiciens à droite, genre LR, qui...
Ah oui, puis
qui maintient le front républicain.
Voilà. Et puis t'as vu, ils veulent pas. Dès qu'il est, il se, enfin on dit, on parle de lui comme premier ministre, tout de suite il y a le Front National qui dit non. Donc ça, c'est quand même bien, je trouve.
Non, il fait barrage lui encore.
Il a fait barrage.
Ouais. Xavier Bertrand 2027.
Mais j'en sais rien. Je sais pas. Hein. C'est un 2027.
Si c'est ça, vous allez pouvoir faire
déjà,
des films.
Il faut déjà arriver jusqu'en 2027. Hein, je vous signale.
C'est pas gagné.
C'est pas gagné.
Benoît Delépine, ça me fait peur ce que vous dites, parce que comme vous êtes très visionnaire, et j'arrête pas de le dire, ça fait vraiment flipper. D'ailleurs, à leur début, les Guignols de l'Info avaient deux auteurs au départ, c'était vous et Jean-François Alain, que l'on doit aussi les débuts de OSS 117, bien sûr. Puis vous êtes très vite trois avec Bruno Gassiot. Mm-hmm. Vous avez été l'âme des Guignols pendant 6 années. Bon, déjà pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était quoi l'esprit des Guignols qui a totalement disparu, là, parce que quand même, c'était des marionnettes, donc à travers les marionnettes, on pouvait faire des tas de trucs.
C'est-à-dire que, à la fois, on s'entendait hyper bien tous les trois, donc on était très complémentaires, et du coup, c'était comme un espèce de moteur à trois temps, on va dire. Si on était comme des sales gosses réunis dans une pièce, après avoir digéré l'actualité du jour en lisant la presse ou en regardant un peu les infos. Après, c'était parti pour 3 heures d'écriture, mais aussi avec, c'est ça qu'aussi avait amené Jean-François, c'est on se mettait nous-mêmes à imiter les personnages dont on écrivait les dialogues, quoi. Même si on les imitait très mal, on pouvait pas s'empêcher de le faire.
Et par exemple, vous imitiez Chirac ?
Bonjour. Non, bien sûr, mais on n'arrêtait pas. Chirac, c'était vraiment un personnage étonnant dans le sens où on se moquait pas de Chirac, en fait, on se moquait de nos pères, quoi. Chacun de nos pères, tous les trois, on se foutait de la gueule de nos pères, de leur travers, parce qu'ils avaient un peu les mêmes. C'était en définitive, c'est des espèces de mots de leur génération, quoi. Donc on lui mettait tout sur le dos, et puis finalement, on a fini même par le rendre sympathique au bout du compte.
Quoi. Il est en plein revival, Chirac, dans la pop culture. tout le monde, je sais pas, mais...
Peut-être pas.
Baladur, non, je crois. Il est resté, lui.
Par contre, on détestait Baladur, ça c'est sûr. Mais ça, c'était une détestation de Balladur, mais qui nous venait de la détestation de Giscard. C'était vraiment le côté vieille France, tout ça, ça on pouvait pas, hein, les grands bourgeois, Aristo, tout ça, ça nous...
Et comme Giscard est au pouvoir encore aujourd'hui, je vais pas vous emmener là-dessus.
C'est-à-dire Giscard... Ah oui, c'est vrai, bah, son héritier. Non mais attends, son héritier a écrit un livre, ça s'appelait Révolution, tout
ouais,
de même.
Oui, bien sûr, mais c'est... Ouais, tout à fait, on l'a bien vu, ouais. La Révolution, on l'a bien vu. Est-il vrai, Benoît Delépine, que manger des pommes, ce qui a été le... qui est vraiment la punchline que tout le monde retient des guignols dans la bouche de Chirac et qui a devenu un symbole dont il s'est emparé, qui est presque devenu le slogan de sa campagne.
Ouais, bah
ouais. C'était vous, manger des pommes ?
C'est-à-dire que oui, c'était dingue. Mais c'était pour se foutre de sa gueule. C'est-à-dire qu'il avait un programme, mais il avait sorti un livre, mais qui faisait peut-être 15 pages. Quoi. C'était ridicule. Et il ne savait pas quoi mettre sur la couverture. Il avait mis un dessin d'un pommier. Mais pourquoi, quoi ? Donc nous, on avait fait le dialogue, c'était ça. Qu'est-ce qu'il y a dans votre programme ? Manger des pommes. Mais donc, on se fout vraiment de sa gueule. Et on se dit, mais il s'en remettra jamais, quoi. Ouais. Et puis non, au contraire, il a pris la balle au bon, ses équipes, en tout cas. Et ils se sont mis à distribuer des pommes pendant les meetings. Et puis c'est devenu un délire. Et du coup... Mais ça, c'est marrant. Hein. C'est le fait d'avoir de l'humour pour un homme politique, ça en passe par là. Par exemple, là, dernièrement, l'élection de Trump, à un moment, il s'est mis... truc avec les, tu sais, les ramasseurs de poubelles, etc. Et lui, du coup, il s'est mis en reaper de ramasseur de poubelles, il s'est déguisé, puis du coup, il s'est retrouvé avec tous les gens avec lui parce qu'il avait retourné la critique, quoi. Et ça, il faut savoir le faire. Enfin, en tout cas,
et
les
vous
équipes...
Savez, vous avez vu qui le fait en France aujourd'hui ?
J'ai vu ça. Oh là là, mais extraordinaire. Hein. Oh là là, mais Rachida, bravo, hein, bravo. Notre ministre qui ramasse les poubelles, bravo.
Donc c'est du Trump dans le texte.
Ah oui, mais c'est
enfin, c'est du sous-Trump.
C'est du sous-Trump.
C'est le Trump du Lidl.
Ouais, mais tu vas voir que ça va fonctionner, hein, je pense.
Oh là là, il est visionnaire.
Ah non, mais c'est sûr.
C'est le marc de café, Benoît Delépine. Donc ça y est. Donc ok, donc Rachida, c'est fait, Xavier Bertrand. Rachida, Xavier Bertrand.
Aïe,
c'est comme ça. Mais à propos des politiques et de l'humour, justement, on parlait de Chirac qui s'est réapproprié la pomme. Ça, c'est vraiment une génération qui avait compris comment faire, qui avait cette tradition de la caricature, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, ils se prennent la caricature. En fait, ils portent plainte aujourd'hui. Le Chirac d'aujourd'hui, il aurait porté plainte contre vous, en fait. Non,
ça, c'est possible. Et là, c'est un peu la galère dès que les gens commencent à porter plainte. Je me souviens de... Mais ça va plus loin, hein, de mon ami belge comme toi, Noël Godin... qui lançait des tartes sur les prétentieux, on va dire.
Ouais, c'était l'entarteur,
ça.
Ouais.
L'entarteur. Et il a dû s'arrêter. Après, j'étais là avec lui, hein, quand il a mis la tarte sur la figure de chevènement, soi-disant de gauche, et qui lui a porté plainte. Noël a été condamné à verser une amende, on a dû faire des concerts pour payer son amende, etc. C'est vrai que là, du coup, ça devient compliqué, quoi.
Faut dire
que
ça avait pris des proportions. Avec José Bové, vous y avez construit une tarte à pulte.
Oui. Pour entarter un immeuble où se réunissaient tous les grands patrons d'Europe. Le Sheraton de Bruxelles.
C'est ça. Non, mais Benoît Delépine, c'est celui qui va le plus loin, cherchez pas. Vous êtes mon maître absolu, c'est vous qui allez le plus loin. Justement, on pourrait s'arrêter un peu sur quelques polémiques de l'époque des guignols.
Le truc le plus fort dont je sois informé à l'époque, c'était quand même le patron de Peugeot, là, qui a le problème de voiture. Jacques Calvet. Mais alors là, par exemple, c'est dingue. C'est simplement parce que nous, tous les trois, on avait des gens dans notre famille qui avaient des problèmes avec leur Peugeot, c'est tout, quoi. Mais non, mais... Et donc, ils pensaient que c'était une attaque frontale contre le groupe. Nous, c'est trois sales gosses qui ont... Et c'était pas par hasard, parce que c'est quand même bizarre que t'as trois mecs dont quelqu'un dans la famille a le toit ouvrant qui n'arrive pas à se refermer et qui se retrouve sous la flotte sur la route. Il y a quand même un problème, tu vois, quelque part.
Et donc ça se transforme en marionnette
après,
du patron de Peugeot.
Le patron de Peugeot qui arrivait toujours en retard, qui disait « Excusez-moi, j'ai un problème de voiture.
» Et ça, il a très mal pris.
Il l'a très mal pris. Mais du coup, il a appelé Rousselet, qui était le patron de Canal à l'époque, en disant, si vous n'arrêtez pas cette farce, eh bien, je retire tous mes budgets publicitaires de Canal+. Et Rousselet avait répondu, il parlait un peu comme lui, d'ailleurs, écoute, je ne comprends pas, vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà. Ça, c'était chouette, ça.
Ah, c'est fou.
Ça,
donc, à chaque fois, vous vous vengez symboliquement avec humour.
Oui.
C'est rigolo. Vous avez même été, les auteurs des guignols, accusés d'avoir fait perdre la France à l'Euro 92 à cause de la marionnette de Jean-Pierre Papin. Vous vous en rappelez pas, ça ?
Non, je m'en rappelle pas.
J'ai lu ça, ouais.
Ah, merde.
Ah ouais.
Oh, non,
et alors, non, mais à chaque fois, on vous accusait de tout. Patrick Bruel, il disait, vous empêchez les gens qui ne m'aiment pas de pouvoir m'aimer. Vous vous rappelez pas, relisez les vieux papiers sur les guignols, c'est vraiment très très marrant. Et les guignols qui sont zigouillés 6 mois après qu'on soit tous dans la rue pour Charlie. Et sais que vous avez cette tradition d'humour harakiri, grand pote de ciné.
Ah oui, oui.
Ouais. D'ailleurs, on embrasse Catherine Ciné, qui a dû fermer le journal Ciné.
Il n'y a pas longtemps.
Il n'y a pas longtemps, ouais.
Ah ouais, mais Bob, c'était extraordinaire. Hein. D'ailleurs, je ne vais pas lancer de polémique là-dessus, mais Bob, dans Charlie Hebdo, c'était un vrai défenseur des Palestiniens. Et après, le fait qu'il en soit parti, je ne sais pas si ça a eu d'une façon ou d'une autre des conséquences. Peut-être pas, parce que c'est comme pour les guignols, il ne faut pas croire qu'on a une telle importance. Mais voilà, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Ça zone toutes les semaines, mais ça me manque vraiment. C'est-à-dire que d'avoir quelqu'un qui continue, quoi qu'il arrive, à tenir des propos anarchistes, mais en dépit du bon sens même, c'est pas grave. Au moins, il y avait cette voix-là qui s'élevait toutes les semaines.
Et cette tradition qui fait qu'un jour, vous incarnez Michael Kull, réputé le plus mauvais reporter du monde, donc sur Canal+. À Cannes, il aborde Catherine Deneuve, il l'appelle Isabelle, il se fait gifler. La vraie Catherine Deneuve.
Ah oui, non, c'était trop marrant, ça. Mais alors, c'était avec l'accord de Catherine Deneuve.
Oui.
Mais comme elle a vraiment bien joué le jeu, quoi, c'est-à-dire, je la confondais avec Isabelle Adjani, donc... Alors Isabelle, elle craque, elle me balance une claque, mais elle a tellement bien joué le jeu que tout le monde a cru qu'elle n'avait pas le sens de l'humour, alors que justement, elle avait le sens de l'humour, c'est ça qui est un peu...
Voilà, vous pouvez trouver la vidéo, elle traîne sur YouTube, elle est phénoménale. Et il travaille Michael Kull pour Canal International, dont le slogan c'est « Avec le sang du monde, nous faisons du boudin d'information ».
Ça c'est de Moustique, ça, c'est génial cette phrase.
Jules-Edouard Moustique qui présentait
vraiment, Avec le sang du monde, nous faisons du boudin d'information », c'est exactement ça.
Et aujourd'hui c'est ce qui se passe,
Oui, complètement. Malheureusement pas assez, parce qu'il y a eu du sang qui a coulé et qui n'a pas fait assez de boudin, je trouve. Là on fait du boudin avec du vent, on fait du boudin blanc, on va dire.
C'est bien pour Noël, le boudin blanc.
Oui, voilà.
Et aujourd'hui Groland est sur Canal+, avec Gustave Kervern et Francis Kuntz, qui est raciste, misogyne. Donc finalement c'est logique que vous soyez employé de Bolloré.
Ouais, mais attends, parce que Francis Kuntz a pris sa retraite, donc on a plus de personnages un peu extrémistes comme lui. Il va falloir
c'est
en
dommage.
Trouver un. On va peut-être... C'est vraiment dommage. Hein. J'étais encore avec lui hier soir, il nous manque beaucoup.
Bah oui, on l'adore. Fan de BD aussi.
Bah oui.
Et, vous avez déjà rencontré Vincent Bolloré, le patron de Canal+ ?
Alors, une fois, mais c'était il y a très longtemps, il y a 10 ans, et c'est tout. Et alors, il m'avait dit une parole un peu qui m'est restée, parce que je trouve que... Il a dit, oui, Groland... Tout le monde n'aime pas, mais moi, j'aime le surréalisme. J'ai moi-même 2 Dali. Ben voilà. Écoute, c'est peut-être pour ça qu'on est encore là. Hein.
Mais c'est ça.
Écoute, j'ose l'espérer, en tout cas.
C'est absolument abracadabrantesque. Ah oui, donc il vous considère... Ah, c'est génial, vous êtes une œuvre muséale.
Quelque part, pourquoi pas.
Donc on a trouvé la personne, on a trouvé les gens que Bolloré respecte par-dessus tout. Mais vous avez un pouvoir incroyable.
Peut-être, écoute, j'en sais rien, mais je n'ai pas jamais revu. On n'a pas fait de bilan dernièrement.
Non,
mais...
vous n'avez pas fait de bilan. Vous êtes toujours Groland sur Canal+, avec Vincent Bolloré. Je ne vais pas vous refaire le laïus quand même de cet oligarque qui finance l'extrême droite et que... Voilà, vous êtes pro Xavier Bertrand, donc on a compris dans quelques...
Non, mais c'est pas ça, mais déjà, on était là les premiers.
Peuple... Antoine Decaune dit pareil. Ce serait quoi votre ligne rouge ? C'est ça ma question plutôt. Ce serait quoi votre ligne rouge vraiment pour que vous... Alors là, c'est plus possible.
C'est que tout d'un coup, vraiment, il y a un... Mais nous, franchement, il ne nous emmerde pas sur les sketchs, donc...
La ligne rouge, ce serait qu'il vous emmerde sur les sketchs.
Non, ça, c'est pas possible. Tu vois, par exemple, là, dans l'émission de samedi, moi, j'avais peur sur un sketch, justement, qui touchait à la religion, etc. Je me disais, bon, peut-être qu'il y aura un souci.
Ouais, mais vous êtes Dali.
Mais bon, voilà. En étant Dali, ça passe.
Super. Allez voir Animal Totem, qui est aussi politique que poétique. Benoît Delépine. Pour terminer, votre personnage, il traverse la Picardie à pied avec sa valise à roulettes. Et dans sa valise, en fait, il dit son karma.
Oui. Ah, le karma. Oh.
C'est quoi le karma ?
Le karma, c'est des plus ou moins belles choses qu'on aura fait dans sa vie. Quoi.
Voilà. Et vous, Benoît Delépine, votre karma, ce serait quoi ? Vous êtes content de quoi ? de ce que vous laissez comme... Bah, déjà, vous êtes Dali, hein, on le rappelle. Donc... Qu'est-ce que vous avez laissé ?
Non, mais je suis assez... depuis le début, hein, depuis mon premier journal. Moi, malheureusement, après... quand j'avais 16 ans et j'ai eu mon bac... Ouais. On a fait comme tous les parents, enfin ils ont fait comme tous les parents, aller dans des écoles pour essayer de trouver quoi faire plus tard. Et je suis allé à Saint-Luc, en Belgique, où il y avait une école de bande dessinée, de graphisme.
Très réputée.
Et c'est ça que je voulais faire, quoi. Et mon père m'a dit, non, tu feras pas ça, c'est pas un métier. Et ça fait exactement 50 ans que je me bats pour réussir à enfin dessiner, et j'ai enfin réussi à le faire dans Animal Totem. C'est moi qui fais l'ensemble de l'album pour enfants qui s'appelle Les Aventures de Totor, le pigeon voyageur piéton.
Ah oui. Voilà.
Donc j'ai réussi ma vie.
Joli. Avec la voix off de Yolande Moreau.
Yolande Moreau en plus.
Bien sûr. Oh, c'est beau comme votre film, avec Samir Ghesmi, avec Olivier Rabourdin, avec Solène Rigaud et l'apparition de Patrick Bouchité et aussi la participation de Pierre Lottin. C'est sur vos écrans panoramiques de cinéma. Animal Totem, Benoît Delépine, merci. Quel plaisir de vous avoir reçu.
Merci à toi, Charline. Oh.
Des bisous. Et santé.
Et santé,
parce qu'on
on
est samedi soir. Verre. Hein. Allez. Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, François Audouin, réalisateur, Hélène Langlois à la technique, Paola Collin au mixage, Joubaka pour la programmation musicale et Noémie Boncourt à la documentation. Je vous retrouve samedi prochain avec Pierre Gagnère à 19h20.